représenter une nouvelle fois l'abbé de Clercq, qui est déjà intervenu une première fois il y a 4-5 semaines. Et donc, il va nous parler ce soir d'un thème qui lui tient particulièrement à cœur, que nous avons déjà abordé plusieurs fois, donc la liturgie comme action. Et tout liturgiste, en tout cas après Vatican II, se doit de mettre en honneur cette thématique qui, comme vous le savez, est devenue très centrale. Très gentiment, l'abbé de Clercq a accepté de ne pas se cantonner dans l'Eucharistie. L'un de notre étudiant souhaitait qu'on élargisse un peu le champ très vaste de la liturgie, et donc nous avons l'occasion d'aborder d'autres lieux liturgiques. Déjà un grand merci, Paul.
Bonsoir à tous et à toutes. Je suis admiratif devant votre persévérance, parce que c'est la fin de l'année et il y a toujours, les bancs sont toujours bien pleins. J'imagine que c'est l'intérêt pour la liturgie, l'Eucharistie, qui fait en sorte, et bien sûr la qualité du conférencier, qui fait en sorte que vous êtes toujours là. Alors donc, il faudra réfléchir, essayer d'approfondir, de mieux comprendre, en vue de mieux vivre, que la liturgie est une action. On peut déjà le dire à partir du mot grec, liturgia, on discute beaucoup sur l'étymologie, mais la fin du mot est très claire, c'est ergon, c'est une action. Vous pouvez faire de l'ergothérapie, thérapie par le travail, par l'action. Ici, c'est de la sanctification par l'action. Dire ça. Alors bien sûr, on va essayer de s'entendre sur ce qu'est l'action extérieure, intérieure, mais en tout cas, je réagis d'emblée contre une compréhension qui traîne, qui flotte dans l'air et qui nous imprègne, hein, c'est que la liturgie, c'est l'affaire du prêtre seul, à laquelle les fidèles assistent, sont admis à assister, pieusement, parfois en feuilletant des livres ou en disant le chapelet, et trop souvent, à mes yeux, en ne sachant pas trop ce qu'il faut y faire, justement. On entend souvent ce type de réaction. Je m'interroge aussi à ce propos sur les fameuses liturgies des enfants. On les met à la chapelle sur le côté, là, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux à ce moment-là? Moi, je ne sais pas, parce que moi, je suis à l'hôtel, donc je n'y participe pas, mais je m'inquiète souvent. Je dis, mais est-ce qu'on fait de la catéchèse? Peut-être, mais ça, c'est pas une action. La liturgie, c'est une action. Et donc, je prends ça comme point d'interrogation, disons, à propos de ce thème, la liturgie est une action. Ou aussi j'entends gens qui disent, mais comment est-ce qu'on va animer? Il faut entendre, comment est-ce qu'on va parvenir à animer quelque chose qui paraît mort? Le sentiment qu'on n'a pas les clés. On soupçonne bien qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais on ne sait pas bien comment entrer dans cette action et que ce qu'il y a à faire. Et donc, je pense que souvent, il y a un certain malaise qui se cache derrière cet thème-là. Alors, vous avez vu la feuille que j'ai essayé de préparer là. Il y a trois points, comme il se doit, trinitaire, c'est très bien en théologie. Nous commencerons par dire que la liturgie est l'action du Christ. J'imagine que ça ne vous surprendra pas trop. Mais il y a trois petits points, parce que le second, trois petits points qui suivent le premier titre, parce que le second titre enclenche en disant que cette action du Christ, elle est célébrée par l'Église. Et en troisième lieu, que la liturgie nous fait poser des actes intérieurs. Et donc, quand on dit la liturgie est une action, ça ne veut pas dire de l'activisme, hein, qui a l'action du Christ célébrée par l'Église, mais qui a aussi oui, la liturgie nous fait entrer dans des attitudes profondes, hein, qu'on peut appeler des actes intérieurs. Il ne s'agit pas de bouger physiquement, mais moralement, spirituellement, profondément, existentiellement. Mais commençons par le début, donc liturgie comme action du Christ. C'est clair pour l'Eucharistie. On a déjà dit que je prendrais d'autres exemples, hein, mais commençons par le plus simple, d'une certaine manière. Hein. Il est difficile de ne pas comprendre que l'Eucharistie est d'abord l'action que le Christ lui-même a réalisée, a opérée, la nuit même où il fut livré, comme on dit dans les prières eucharistiques, hein, mais que vous pouvez voir dans les quatre évangiles. Hein, opposition, bien sûr, croissante des autorités juives, trahison de Judas, arrestation, condamnation, mise à mort. Et juste avant cela, hein, la dernière scène où Jésus anticipe d'une certaine manière ce qui va lui arriver. Hein, et comment cela ? En reprenant les gestes du repas religieux juif, que nous connaissons par cœur, ces gestes. Il prit le pain, il prononça la bénédiction, il le rompit et le donna, quatre verbes d'action. Il prit le pain, et ça c'était le repas religieux juif, à la veille du sabbat. Alors, reprenons un peu ces quatre verbes qui sont centraux pour la compréhension de l'Eucharistie. Il prit le pain, c'est peut-être le plus simple, le plus banal. Il prononça la bénédiction. Je dis ici, il prononça la bénédiction. On dirait il le bénit, mais quand on dit simplement il le bénit, nous interprétons parfois, il fait une croix dessus. Non! Le verbe bénir dans le Nouveau Testament, enfin dans le langage biblique, c'est bénir Dieu, évidemment. Prononcer la louange de Dieu, la bénédiction, l'action de grâce en vocabulaire chrétien. Quand on dit bénir, c'est plutôt le vocabulaire juif. Quand on dit rendre grâce, c'est plutôt le vocabulaire chrétien. Mais c'est synonyme à 99,9%. Et donc, il prononça la bénédiction, c'est-à-dire qu'il... même dans ces circonstances-là, parvenir à bénir Dieu grâce au soubassement de la prière juive à laquelle il était habitué, pour bénir Dieu, même dans ces circonstances-là, les apôtres étant réunis, Judas s'esquivant, et bénissant Dieu pour ce repas et la circonstance dans laquelle il le prenait. Et donc, c'est l'action... dans ces quatre verbes, c'est l'action qui a duré le plus longtemps. Il prit le pain, c'est vite fait. Il prononça la bénédiction, ça a duré un certain temps. Il le rompit. Et là, il y a deux couches de signification à cette action-là. Il le rompit pour que chacun des convives en est une part, en est un morceau. Mais, justement, comme il a ajouté la parole, « Ceci est mon corps rompu pour vous, livré pour vous, donné pour vous », les trois verbes se trouvent dans le Nouveau Testament, il a greffé sur cette fraction qui a le sens premier, primitif, d'être un geste de partage, le fait que c'est son corps, sa vie livrée, rompue, fractionnée pour nous. Et donc la fraction est d'une part un geste du repas religieux juif, mais qui dans ce contexte-là est un mime, si l'on peut dire, manifeste, exprime, visibilise dans un acte que Jésus rompt sa vie pour nous. Et donc, toute Eucharistie avant la communion fait la fraction parce qu'on communie à un corps rompu, brisé. Une vie donnée pour nous. Et le quatrième verbe, c'est il le donna, comme bien sûr, en partage. Mais vous voyez qu'à ce moment de la scène, et bien sûr à chaque Eucharistie pour nous, hein, Jésus nous le donne, nous le recevons et nous communions, comme nous disons. C'est sans doute un des plus beaux mots du vocabulaire chrétien, nous communions à ce que Jésus lui-même a fait, à l'action de Jésus à la dernière scène, hein, qui est fondamentalement la fraction de sa vie, hein, la donation totale de sa vie, hein, qui est exprimé là dans la fraction du pain, qui est d'ailleurs la première expression du Nouveau Testament pour désigner l'Eucharistie. Saint Luc, les disciples d'Emmaüs, ils le reconnurent à la fraction du pain. Donc, peut-être qu'il vaut mieux dire, excusez-moi, la seconde expression, puisque dans la première aux Corinthiens, c'est le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. Oui, du Seigneur, ça dit bien ce que ça veut dire. Et la seconde expression qu'on trouve est dans le chapitre 23 de Saint-Luc, le disciple d'Emmaüs, et dans les Actes des Apôtres, c'est la fraction du pain. Et puis, on a utilisé une troisième expression, Eucharistie, qui reprend le verbe bénir, il prononça la bénédiction, ou il fit l'Eucharistie, hein, qui dit la louange pour tout cela. Et donc, la fraction dit l'élément d'amour, mais d'amour qui comporte la croix, qui comporte la donation de la vie de Jésus. Hein, mais c'est une chose si grande que c'est dans l'action de grâce et dans l'Eucharistie que l'on célèbre ces actions. Et donc, quand nous reprenons le terme Eucharistie, hein, on englobe, si vous voulez, ces quatre actions dans une action de louange. Louange au Père pour nous avoir donné Jésus qui nous a manifesté son amour jusque-là. Alors on peut développer l'action de grâce comme fait la prière eucharistique numéro 4 en parcourant toute l'histoire du salut, mais de toute façon que l'on commence dans les lointains ou que l'on arrive directement comme la prière eucharistique 2 à la fin de la vie de Jésus, le sommet c'est toujours la nuit même où il fut livré, il prit le pain. En grec, on pourrait dire, en vocabulaire chrétien, on pourrait dire « il eucharistia », on dit « il bénit » en prenant le vocabulaire juif, il le rompit, hein, symbole de la fraction de toute sa vie donnée pour nous, et il le donna pour que nous nous unissions à son action. Et donc, vous voyez, quand on dit « la liturgie est l'action du Christ », dans l'Eucharistie, c'est évident, c'est le centre même. Et l'Eucharistie est bâti ainsi. Il faut dire à ce propos-là que la seconde partie de la messe que je viens d'expliciter est la reprise christianisée du repas juif auquel on a adjoint très tôt dans le christianisme primitif ce qu'on appelle la liturgie de la parole, qui est la liturgie de la synagogue. Le culte juif se faisait au temple, mais comme tout le monde n'habitait pas à Jérusalem, à Nazareth, il y avait une synagogue, et donc on a repris le culte synagogal comme première partie de notre Eucharistie. Liturgie comme action du Christ, hein, ces quatre verbes sont, à mes yeux, extrêmement significatifs pour nous faire entrer, hein, dans ces actions du Christ que nous célébrons, j'y viendrai tout de suite, hein, mais dont il faut bien sûr comprendre qu'ils sont là pour nous faire vivre, pour nous nourrir dans l'Eucharistie, hein, et pour que quand Jésus dit « faites ceci en mémorial de moi » pour que, en les reprenant, nous unissions, nous communions, hein, à l'action de Jésus. Action du Christ est devenue nôtre, hein, nos actions sont fondamentalement, dans la liturgie, prioritairement des actions du Christ. C'est d'ailleurs toujours... à partir du moment où on cite les actions du Christ, c'est en jeu, hein, où il prit le pain. La louange, on dit « nous te bénissons, Dieu, Père, etc. » Nous, pour Jésus qui, lui, prit le pain. Et donc ce sont, bien sûr, ses actions à lui. On peut prendre un peu plus de recul et lire le numéro 7 de la Constitution sur la liturgie. La Constitution sur la liturgie, premier document conciliaire, donc voté par le Concile en 63. Les méchantes langues disent que les pères ne savaient pas trop par quoi commencer, alors il fallait bien commencer par la liturgie. Bon, les gens plus sérieux disent non, le mouvement liturgique avait fait en sorte que les documents, les personnes étaient prêtes pour que le concile commence par là. En tout cas, il nous a laissé un très beau texte dont je lis avec vous le numéro 7. La liturgie est donc considérée à juste titre comme l'exercice, la mise en œuvre, l'action de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles, oui, donc que je viens de citer d'une certaine manière, et réalisée d'une manière propre à chacun d'entre eux, et dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, à savoir par le chef, le Christ, et ses membres. C'est un vocabulaire un peu difficile, mais la Constitution a repris là des textes antérieurs, notamment l'encyclique Mediator Dei de 1947, de manière à reprendre le mouvement de la tradition et cette encyclique du pape Pie XII. Par conséquent, toute célébration liturgique en tant qu'œuvre du Christ, en tant qu'œuvre, œuvre, action du Christ, prêtre et de son corps, qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église n'égale l'efficacité au même titre et au même degré. En tant qu'œuvre du Christ et de son corps, petite parenthèse, le prêtre n'est pas nommé, pas encore. La messe du prêtre, on ne connaît pas. La messe du Christ. Alors oui, il faut un prêtre, mais c'est pas la chose du prêtre. Ça ne lui appartient pas. C'est son ministère, mais c'est l'action du Christ. C'est pour ça que j'ai commencé par ces quatre verbes, parce que enfin, ça vous... c'est une évidence qui crève les yeux, hein, que ce sont bien les actions du Christ. Mais effectivement, je fais remarquer que le prêtre n'est pas cité, parce que trop souvent, hein, on dit bah, « ça, c'est l'affaire du prêtre ». Oui, j'y viendrai tout à l'heure, mais c'est d'abord les actions du Christ et de son corps à qui il a confié cela. Pour souligner que c'est l'action du Christ, il y a ces grandes phrases d'Augustin dans ses controverses de l'époque, au début du 5e siècle, hein, où il a laissé ces phrases qui sont très souvent répétées en disant « si Pierre baptise, c'est le Christ qui baptise. Si Jean baptise, c'est le Christ qui baptise. Et même si c'est Judas qui baptise, c'est toujours le Christ qui baptise. » En d'autres termes, le ministre, ce n'est pas son action à lui. Et même s'il est traître, ben ce n'est pas en tant que traître qu'il est ministre, c'est en tant que chargé d'être ministre. Alors on ne souhaite pas qu'il soit traître, mais c'est toujours l'action du Christ, prioritairement, fondamentalement. Donc cette phrase d'Augustin dit ça bien d'une certaine manière. Ce n'est pas un idéal pour le prêtre, bien sûr, mais ça dit fortement que la liturgie, c'est d'abord l'action du Christ. Mais cela vous dit aussi que la liturgie ne se comprend pas d'abord comme un exercice de piété, Et ça, il faut reconnaître qu'en Occident, on s'est laissé davantage aller à cela. On a recouvert la liturgie, ou on s'est occupé pendant la liturgie avec d'autres choses, puisque c'était devenu un peu la messe du prêtre, hein, qui disait sa messe, comme on disait, possessif, hein, à rayer du vocabulaire. Ça n'appartient, c'est la liturgie du Christ. Ce n'est pas la messe du prêtre. Il est chargé ministériellement de la présider, mais ce n'est pas sa possession. Mais il faut reconnaître effectivement qu'en Occident, il y a encore des églises où on a un jubé. Je crois que la plus proche ici, c'est Louvain, Leuven, la collégiale de Saint-Pierre. Vous avez un jubé, hein, qui sépare la partie des fidèles et la partie du prêtre. Et donc, c'était construit en pierre. Hein. Et donc, ça s'est déroulé derrière. Et donc, les braves gens que nous étions à l'époque, ben, on disait son chapelet en attendant que ça se passe. Regardez les peintures du Moyen-Âge, vous voyez bien ça. Van der Weyden et tous ces gens-là, on voit des églises coupées en deux. Des bâtiments églises, mais un peu l'église que nous sommes, un peu coupée en deux. Donc là, on a une tradition qui n'est pas nécessairement la plus porteuse. On peut lire aussi dans cette foulée le beau numéro 14 de la Constitution, qui est une forte invitation. La Mère Église désire fortement, que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente, active, pour des actions, oui, active, aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même. Et donc, ce n'est pas pour amuser le peuple pendant... Non, c'est la nature même de la liturgie qui donc requiert qu'elle soit célébrée de manière active, oui. Et qui, en vertu du baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien. Alors, on reprend la formidable qualification du peuple chrétien par la première épître de Saint-Pierre, « Race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple que Dieu s'est acquis ». Cette participation pleine et active de tout le peuple doit être recherchée avec le plus grand soin dans l'œuvre visant à restaurer et à promouvoir la liturgie. C'est donc la constitution conciliaire qui donne le programme. Elle est en effet la source première et en même temps indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser un esprit vraiment chrétien, parce que c'est l'action du Christ. Et c'est pourquoi les pasteurs d'âme doivent chercher avec soin à l'atteindre dans toute leur action pastorale par la formation qui convient, ce que nous faisons par exemple ce soir. Nous sommes fidèles à la Constitution sur la liturgie. Un bon point pour nous. Bref, vous le voyez bien, dans la liturgie, l'acteur principal, c'est le Christ. Liturgie de la parole, par exemple, hein, on acclame, on dit « Bravo, lecteur, tu as bien lu », on dit « Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus ». Les acclamations sont très importantes dans la liturgie, parce que elles disent souvent l'essentiel, elles résument très bien, hein, ce qu'on vient de faire. On a lu, hein, et puis on dit « Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus ». C'est sa parole. C'est l'acteur principal qui nous adresse la parole et qui nous invite à entrer dans... Oui, les Philippiens disent ça. Hein, entrer dans les sentiments qui furent dans le Christ Jésus, lui qui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang illégal est à Dieu. On peut entendre ça comme une sorte de paraphrase, ce que je dis maintenant, hein, ou plutôt moi qui paraphrase le Nouveau Testament, excusez-moi. Hein. En tout cas, clairement, la liturgie n'est pas d'abord un discours, n'est pas d'abord une catéchèse, ce sont les actes du Christ célébrés par la liturgie, célébré par l'Église, ce qui est la définition même de la liturgie. Et donc, nous entrons dans le second point. Cette action du Christ, bien sûr, il nous l'a confiée pour l'Eucharistie, c'est très clair. Faites ceci en mémoire de moi, en mémorial de moi. Mémoire en français est un peu faible, ça fait penser à... Oui, ça fait penser à... Mais mémorial, c'est plus fort. Les paroles qui lancent l'anamnèse sont bien... Chaque fois que vous le ferez, faites-le en mémorial de moi. Chaque fois que vous le faites, c'est mon action que vous accomplissez. C'est moi qui suis l'acteur que vous mettez en œuvre, que vous célébrez. C'est l'action du Christ que nous reprenons pour devenir toujours davantage chrétien et finalement communier à lui. Mais ici, je vais prendre d'autres exemples que l'Eucharistie. D'abord le baptême. Le baptême dont la figure, le modèle, est le baptême des adultes. Dans la Constitution, lorsqu'on commence à parler des sacrements, on commence par le baptême, et d'abord le baptême des adultes. Parce que ça, c'est le modèle normal. Puisque au baptême, on dit « Croyez-vous en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ?» Et quand c'est un bébé, il ne peut pas répondre. Alors il faut trouver des substituts. Anciennement, parrain, marraine, aujourd'hui, parent. Mais le baptême normal, ce sont des personnes qui ont perçu dans leur vie l'intérêt, la joie d'être chrétien et qui deviennent catéchumènes et sont heureux d'être baptisés et qui répondent personnellement oui. C'est aussi très intéressant de voir comment pour être baptisé, même quand ce sont des adultes, on ne leur demande pas dites-nous un peu votre foi. Mais non, on leur pose la question. Et le contenu est donné dans la question. Croyez-vous en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? C'est formidable, en tout cas. Tout vous est donné. La seule manière d'être chrétien, c'est de dire oui. Le oui est... Ce n'est pas vous qui inventez la foi, qui l'a donnée. Elle vous est offerte. La manière dont c'est articulé dans le baptême est formidable pour ça. Parce que c'est le don de la foi et la réception par une syllabe, mais qui est profondément engageante. Mais nous sommes plus habitués, bien sûr, au baptême des petits-enfants. Vous avez déjà participé à un baptême de petit enfant, ça commence par l'assignation, le signe du Christ, la liturgie de la parole, bien sûr, entendre la parole du Christ sur cet événement, et puis la bénédiction, la bénédiction de l'eau, qui souvent malheureusement passe au bleu, mais qui est aussi un des actes centraux. Comme on fait la bénédiction eucharistique, la prière eucharistique, il y a aussi la bénédiction de l'eau baptismale, que l'on fait à la vigile pascale, mais que l'on peut reprendre lorsqu'on fait un baptême de petit enfant. Et puis, le plongeon. Ça, c'est pour un enfant, c'est plus facile. Je parlerai tout à l'heure des adultes. Mais le plongeon dans l'eau... Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis on le relève. Et on peut chanter un Alléluia. Et tout le monde est scotché. Parce que les enfants, il ne faut pas leur expliquer. Quand on fait l'action, elle parle d'elle-même. Évidemment, si vous mettez 3 gouttes sur l'enfant et puis que vous frottez vite pour que ça ne mouille pas, alors il faut expliquer. Ah oui, et donc, vous savez, on fait un baptême avec de l'eau parce que Jésus dans le temps. Ça, c'est de la foutue catéchèse qui vient combler quelque chose qu'on ne fait pas. Mais faites-le!
Une formule à ce propos-là. Je
je ne la trouve pas, mais ça me viendra. Les sacrements comportent tous une prière de bénédiction et une action. Vous pouvez prendre l'onction des malades, bénédiction de l'huile, et puis l'onction. La prière eucharistique et la communion. Ici, la bénédiction de l'eau baptismale et le baptisé, bapto, baptizo, c'est plonger. Et donc le passage à travers les eaux vers la remontée de la résurrection. Et donc l'action liturgique, elle mime ce qui est en train de se faire spirituellement. Elle fait comprendre par l'acte le sens de la chose. Et donc vous comprenez aussi l'importance des lieux, des dispositifs qu'on a pour cela. C'est un peu... Oui, enfin, non, ce n'est pas annexe, parce que nécessairement, pour un baptême, pour une Eucharistie, on la célèbre dans l'église telle qu'elle est, dans le baptistère tel qu'il est, mais qui ne sont pas toujours aménagés de la meilleure manière. En d'autres termes, on a construit les églises d'une certaine manière, en fonction de... Et on a bien vu après Vatican II qu'on a fait des aménagements. C'est extrêmement important parce que la manière dont une action est posée fait comprendre son sens. Si vous invitez des gens chez vous à la maison, vous n'allez pas les mettre dans une pièce là pour manger et vous mangez de l'autre côté. Vous mangez ensemble. Alors que pour les églises, je vous l'ai dit, à Louvain, on a construit un mur entre les deux. Alors... Ça dit tout de suite quelque chose. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur l'aménagement des lieux liturgiques. J'ai ici deux livres en italien à ce propos, mais il y a de belles images, si vous voulez. Après, vous pouvez regarder. Vous connaissez tous pour le baptême, vous avez tous en vue la ville de Pise. Avec la tour penchée, on la connaît, mais à côté, il y a la cathédrale et il y a un baptistère. Et donc, il y a trois bâtiments. Et donc, anciennement, il y a un lieu spécial qui montre que l'on peut devenir chrétien. On a construit des baptistères indépendamment de l'Église. Les deux sacrements, les piliers, sont représentés par deux bâtiments. Ça c'est de la catéchèse. Il ne faut pas raciociner, mais vous prenez la photo et vous avez compris qu'on devient chrétien par le baptême et puis on entre dans l'Eucharistie, dans l'Église pour l'Eucharistie. Et donc, ces baptistères étaient assez vastes, comportaient donc pour quelques personnes. La cuve baptismale le plus souvent au milieu, et donc les catéchumènes adultes se dévêtaient. On enlève ses vieux vêtements, la vie ancienne, on est baptisé nu, d'abord les petits-enfants, et puis les hommes, et puis les femmes, parce qu'elles sont plus pudiques que les hommes. Et au sortir de l'eau, on traverse l'eau, et sortir de l'eau, on reçoit le vêtement blanc, in albis, et on entre dans l'église. Il n'y a pas de photo, parce qu'on est baptisé nu. Donc c'est un grand respect, ces choses. Mais évidemment, c'est la traversée des eaux, et donc toute l'histoire biblique revient, traversée de la mer Rouge, le Jourdain, tout ce que vous voulez, en tout cas pour entrer dans l'Église. Et le fait qu'il y ait deux bâtiments vous fait comprendre ça, mais pas par la construction des choses. Alors évidemment, je vois à votre tête que chez vous, vous n'avez pas un baptistère comme à Pise. Mais donc il faut faire avec. Mais on fait mieux avec, si on peut utiliser cette expression, quand on a quelque idée de la chose. Et quand on ne l'a pas, ou bien on reconstruit les affaires, ou bien on se débrouille, comme on dit en Belgique. Il faut trouver. Mais Oui, la manière dont on fait les choses n'est pas indifférente. La liturgie est une action, il s'y passe quelque chose, mais quelque chose de divin, de chrétien, de spirituel. Et donc l'aménagement des lieux est quelque chose de fondamental. Pour le, j'ai pris l'exemple du baptême, pour l'Eucharistie aussi. Si vous voulez faire un petit pèlerinage, vous pouvez aller un de ces jours à l'église Sainte-Suzanne à Scarbec. Vous continuez le boulevard Rayer-Sissi et vous y arrivez. Hein, et vous avez là une église qui est classée d'ailleurs 1930 avec de très beaux vitraux et qu'ils ont réaménagé en un lieu de la parole et un lieu de l'Eucharistie. Et au centre, il n'y a rien. Respecte ce lieu, ce vide sacré, si vous voulez, et l'assemblée est tout autour. Et à un moment, on se tourne pour écouter la parole, et puis on se tourne pour célébrer l'Eucharistie. Si on n'est que 20, on se déplace, on se met autour de la parole, et puis on monte à l'autel. Et c'est très curieux à voir, parce que la première fois que ça se fait, comme ça, parce que dans l'église, on n'a pas habité. Non, mais c'est comme ça. C'est physique, la liturgie. Non. Donc, il faut, dans une église disposée comme ça, il faut apprendre à se tourner. Et donc, j'ai trouvé un peu d'énorme. Mon soeur est professeur de gymnastique.
Ça doit expliquer certaines choses. La liturgie, c'est une action, et donc vous percevez bien l'importance de l'aménagement des lieux. Parce que les lieux peuvent être plus ou moins porteurs. Vous pouvez aussi faire des déplacements, des processions. Vous avez aussi des églises, en Belgique je ne connais que celle du béguinage de Louvain-Leuve, encore une fois Louvain, hein, église universitaire, mais où il y a si l'église est comme ça, hein, vous avez la porte est là, vous avez un pôle de la parole et un pôle eucharistique. Et donc après la parole, il faut se lever et bouger et monter à l'autel. Ou bien vous pouvez quitter. Mais rien que ça, c'est pas banal, hein, vous avez entendu l'évangile, vous y allez ou vous n'y allez pas. Il faut se lever et monter pour communier au Christ. Et donc un déplacement de toute l'assemblée, extraordinaire aussi à la Vigile Pascale. Là, on fait le feu, j'espère en dehors de l'église, enfin, si c'est possible. Hein, et puis on entre, le cierge à la main. Et, oui, on entre dans une action commune, on va écouter ses lectures, le cierge à la main éventuellement. Mais le fait qu'on soit sorti de l'église, qu'on ait allumé dans la nuit le feu, hein, soit entré à nouveau dans le bâtiment pour écouter la parole. Voilà, ce sont des actions extrêmement simples, hein, mais qui facilitent le mouvement intérieur et spirituel. Alors, une fois de plus, il ne suffit pas, hein, du déplacement pour que ça se passe, mais le déplacement facilite, hein, avec un tout petit peu d'indication et de sensibilité et un chant approprié, hein, on entre magnifiquement dans l'action prévue. On peut prendre aussi l'exemple du sacrement de réconciliation, dont on parle si peu. C'est le pardon du Christ, bien évidemment, hein, prononcé sur la croix. Et redit après, ceux à qui vous remettrez les péchés le seront remis. On a connu en Occident le confessionnal, mais qu'on peut toujours utiliser, bien évidemment. Mais le rituel actuel prévoit trois formes de célébration,
soit mode individuel, dans le confessionnal ou pas, soit une assemblée avec liturgie de la parole et rencontre du prêtre, confession ultérieurement. Et donc là, on a une célébration au cours de laquelle il est possible de se confesser. Et donc ça change complètement la figure, la forme, la compréhension de ce qu'on fait, parce qu'on le fait ensemble. Alors quand on est seul, on peut aussi se réconcilier avec les autres, mais quand les autres sont là, ça prend évidemment une toute autre dimension, beaucoup plus communautaire, ecclésiale. On reçoit ensemble le pardon du Christ et on est refait Église les uns avec les autres. Et donc, vous voyez, souvent, juste après Vatican II, quand on a fait ça, on a dit, oui, c'est pour aller plus vite, c'est pour gagner du temps. Ça, c'est stupide, évidemment. Non, c'est l'action du Christ portant le péché du monde qui est célébrée par l'Église, entrant elle-même dans les dispositions d'accueil de ce pardon et de réflexion profonde. L'Église est refaite par le pardon du Christ. Et on peut se donner plus ou moins de temps pour éventuellement se faire un geste l'un avec l'autre ou pas. Vous aménagez devant, dans le cœur quelque part, soit quelques fleurs, soit un objet ou l'autre, que les gens peuvent aller prendre et offrir à leur voisin ou à leur voisine, ou à quelqu'un qui est tout au fond de l'église, mais avec qui ils ont quelques difficultés. Et on recrée ainsi un peuple réconcilié. Et donc, vous voyez, c'est... La mise en œuvre des actions sacramentelles est quelque chose de fondamental. Le principe de base, c'est que, effectivement, les sacrements sont les actions du Christ, qui ne sont pas d'abord destinées à des individus, mais à l'Église, célébrées par l'Église. Alors, l'Église, ce n'est pas d'abord une question de nombre, mais on voit bien que recevoir seul le pardon du Christ, c'est évidemment formidable, mais le recevoir ensemble, ça nous recrée en tant qu'Église. Et ça, c'est incarner davantage, c'est inscrire davantage en nos existences cette réalité formidable que nous pouvons être reçus tels que nous sommes et pardonnés. Va désormais, ne pêche plus, mais va, relève-toi. Oui. Le premier point, c'était l'insistance sur le fait que la liturgie est l'action du Christ, fondamentalement. Le second point voulait insister sur le fait qu'elle est célébrée par l'Église et que donc les modalités de célébration ne sont évidemment pas anodines ou à mésestimer. Il faut... Parce que, justement, ce sont des... à mésestimer dans l'aménagement des lieux, dans la durée. Tout cela peut soit faciliter, soit contrecarrer le projet fondamental d'une assemblée, d'entrer plus ou moins profondément dans l'action du Christ. En troisième point, nous allons voir comment la liturgie nous fait poser des actes intérieurs. En n'opposant pas extériorité et intériorité, mais en évitant que tout mon discours soit compris comme une sorte d'activisme. J'espère n'avoir pas donné cette impression jusqu'ici, mais en tout cas, mon troisième point, je voudrais montrer que dans cette action qui est fondamentalement celle du Christ, célébrée par l'Église, il y a aussi des attitudes intérieures que la liturgie nous fait cultiver, que l'on peut faire sans faire de gymnastique, comme je disais tout à l'heure. Parce que ce sont des actions que la liturgie nous fait faire au plus profond de notre cœur. Je prendrai là deux exemples. D'abord, le dialogue de la préface. Petit accident linguistique, hein, on parle de préface, ça a l'air de dire que c'est le début avant que ça ne commence véritablement, alors que c'est la mauvaise traduction de prefatio qui veut dire proclamation. Hein, c'est la proclamation de la louange de Dieu, c'est la bénédiction, c'est l'action de grâce, c'est l'Eucharistie. Hein, et alors, comme on y a ajouté le chant du Sanctus, on pense qu'avance la préface, cause toujours, on attend que ça se passe. Ça, c'est catastrophique parce que c'est l'action de grâce, c'est la louange. Avec un beau début, le Seigneur avec vous. Déjà, on peut s'arrêter là. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Le Seigneur est avec vous. Et c'est déjà la troisième fois qu'on vous le dit. Tout au début, on peut arriver en retard, avant l'évangile. Ici, et pour ceux qui n'auraient pas les oreilles bien ouvertes, il y a encore une quatrième fois à la fin. Le Seigneur avec vous. Mais c'est la communion. D'une autre manière que la communion eucharistique, au pain et au vin. Mais le Seigneur avec vous. Et la liturgie dit constamment tout le mystère. Simplement, le Seigneur avec vous. Mais on dit ça machinalement, etc. Et puis on tourne sa chaise pendant ce temps-là. C'est ça qui tue la liturgie. C'est qu'on fait les choses bêtement. Sans se laisser inspirer par ce qui est fait, ce qui est dit. Le Seigneur avec vous. Et puis élevons notre cœur. Ah. Voilà, voilà une action intérieure. Évidemment, normalement, ça s'accompagne mieux du fait qu'on se lève plutôt que de rester sur sa chaise. Mais élevons notre cœur. Notre cœur, en hébreu, c'est notre personne, hein, c'est tout notre être. Enfin, haut les cœurs. On répond, nous le tournons vers le Seigneur. Là, on a, à mes yeux, admirablement traduit le latin. Le latin, c'est Habemus ad Dominum, nous l'avons vers le Seigneur. En français, on a accentué le mouvement, nous le tournons vers le Seigneur. Hein, l'adhésion suppose qu'on aille vers lui, qu'on se tourne vers lui. Hein, nous le tournons vers le Seigneur. Pourquoi faire ? Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et donc le dialogue du début vous campe et vous dit ce que l'on va faire. On y est ? D'accord ? Cela est juste et bon, et puis on continue. Le dialogue est là pour camper les choses et nous mettre dans les dispositions, hein, les actes intérieurs qui peuvent nous faire faire Eucharistie. Élevons notre cœur. Parce qu'on va célébrer les actes fondamentaux du Christ, mais dans l'émerveillement, parce que ça nous dépasse infiniment. Et donc, c'est la donation de Jésus jusqu'au bout, avec ce qu'elle a aussi de pénible. Il a rompu son corps. Mais c'est pour nous faire vivre, et donc c'est une action merveilleuse. Et donc on dit, élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour cela. Hein, parce que c'est le salut du monde, si vous voulez, qui est en train. C'est ça le salut du monde, c'est de croire qu'effectivement la vraie vie, elle est dans l'autodonation de soi. Hein, et que Jésus l'a fait jusqu'au bout, et que donc et qu'il nous invite à nous unir à lui. Et on poursuit alors dans l'expression de l'Eucharistie, les diverses préfaces. Il y en a 96, je crois, dans le missel. Donc, si vous n'êtes pas content, vous ajoutez une 97e. Mais, hein, c'est une manière d'exprimer des variations sur un thème, hein, si vous voulez, en musique. Hein, le thème est toujours l'action de grâce, mais qui va varier en avant, au carême, à la Pentecôte. Voilà. Premier exemple, le dialogue de la préface. Deuxième exemple, les rites de communion. Les rites de communion. Parce qu'après la prière eucharistique, il y a au moins quatre actions qui nous font communier. La première, c'est le Notre Père. Notre Père. Et donc, manière déjà de dire que ce n'est pas mon Père pour moi tout seul, c'est Notre Père. Il y a un très beau passage de Saint Cyprien, vers 250, qui a fait un commentaire de l'oraison dominicale et qui explique ça de long en large, je vous lis. Avant tout, le docteur de la paix, le maître de l'unité, n'a pas voulu que la prière soit individuelle et privée, en sorte qu'en priant, chacun ne prie que pour soi. Nous ne disons pas « mon Père » qui est aux cieux, ni « donne-moi aujourd'hui mon pain ». Chacun ne demande pas que la dette lui soit remise à lui seul, et ce n'est pas pour lui seul qu'il sollicite de ne pas être induit en tentation et d'être délivré du malin. Pour nous, la prière est public et communautaire. Et quand nous prions, nous intercédons non pour un seul, mais pour tout le peuple, car nous, peuple tout entier, nous sommes un. Commentaire du Notre Père. Donc vous voyez, le premier mot, notre, est déjà terriblement ecclésial, c'est-à-dire nous fait communier. Hein, notre Père, l'expression de la prière en nous, il n'y a qu'une prière dans toute l'Eucharistie qui est en jeu, et dans le missel, elle est imprimée en italique pour dire c'est une prière privée du prêtre avant la communion. Tout le reste est en nous, parce que c'est l'action du Christ célébrée par le corps ecclésial, avec le commentaire de Saint Cyprien, si vous voulez. Donc, première manière de communier, dire ensemble notre Père. Et puis vient la prière pour la paix et le geste de paix. Ce n'est pas une manière de se dire bonjour. Si c'était une manière de se dire bonjour, ça se trouverait au début. Mais évidemment, ça sert un peu à ça. Enfin, aujourd'hui, on est déjà une étape un peu plus loin. Mais disons, il y a 5-10 ans, ça servait à nous décoincer un peu. Hein, et on pouvait quand même... Ça mettait un peu d'ecclésialité dans l'assemblée. Dans notre liturgie occidentale, romane, nous sommes les seuls à placer le baiser de paix à cet endroit-là. J'en parle parce qu'on entend des discussions à ce propos. Dans toutes les autres liturgies, le baiser de paix se trouve avant la prière eucharistique. Selon la parole de Jésus, en Matthieu 5, 23-24, lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec les autres, puis revient, sinon c'est de la frime. Et donc, toutes les autres liturgies, aller à Cheftung, ou il ne faut même plus courir à Cheftung maintenant, Bruxelles est plein de liturgies orientales, le baiser de paix se trouve avant d'entrer dans la prière eucharistique, pour faire, dans une église réconciliée, les actes du Christ. La liturgie romaine a explicitement déplacé le geste de paix pour le mettre, pour en faire un geste de communion. Et la parole n'est plus « réconciliez-vous », mais « que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ». Et donc, le baiser de paix à cette place-là est un fruit de l'Eucharistie, une conséquence de l'Eucharistie, non pas une condition de participation, ce d'une certaine manière l'est aussi, mais fondamentalement, nous recevons la paix, nous recevons la communion du Christ, si vous voulez. Et le diacre, qui a comme ministère ecclésial principalement la mise en œuvre de la charité dans la communauté, dit « Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. » geste de paix à ce moment-là, c'est après le Notre Père, c'est une deuxième manière de communier. On ne sera jamais plus près du Seigneur que des uns des autres. Et donc, pour communier au Seigneur, il faut quand même au minimum être quelque peu en communion les uns avec les autres. Et donc, effectivement, on se donne la paix pour être vrai dans la communion eucharistique. Ce n'est pas une sorte de préalable, ça fait partie de l'acte, de l'action de communier avec son versant communautaire. Le Notre Père, le geste de paix, la fraction. Troisième verbe de tout le récit eucharistique, il prit le pain, il prononça la bénédiction, il le rompit. Eh bien, on le fait, puisque Jésus l'a fait, que la liturgie, c'est l'action du Christ, on l'a fait aussi. Mais ça, c'est un acte qui, dans la plupart des eucharisties, enfin, je ne suis pas présent à toutes les eucharisties du monde, ni même de Bruxelles, mais le plus souvent, ça passe tout à fait inaperçu. Et cependant, il y a un chant spécial pour le faire. L'agneau Dei, l'agneau de Dieu. Et donc, c'est un des quatre verbes fondamentaux de tous les récits eucharistiques. Jésus qui rompt le pain en signe de sa vie rompue pour nous. Et évidemment aussi pour que chacun puisse communier, qu'il y ait un morceau pour chacun. Mais le sens christique est premier et fondamental, et on y a joint un des chants les plus tendres du répertoire, Agneau de Dieu. Oh, lundi dernier, j'ai eu la chance d'aller à la cathédrale pour écouter la messe en si de Bach. Si vous voulez découvrir ce qu'est l'Agnus Dei, vous mettez ce disque-là, l'Agneau de Dieu, vous êtes transporté dans la douceur de Dieu, c'est extraordinaire. Bach, ce n'est pas seulement un musicien, c'est un théologien formidable. Par la musique, il vous fait entrer dans la profondeur des choses. C'est sublime. Moi, à ma messe d'enterrement, j'aimerais qu'on chante au moins l'Agnus Dei de Bach. Là, vous êtes... C'est l'admiration devant le geste du Christ et la réception intérieure. Donc, vous voyez, les chants et la musique, ce n'est pas pour faire yéyé, c'est pour entrer dans le sens des choses. Alors, selon les cultures et les âges, on peut avoir des chants de tonalités différentes, mais on ne chante pas d'abord pour ne pas s'ennuyer, on chante pour entrer dans l'action. Notre Père, geste de paix, fraction, communion au corps et au sang du Christ. Mais vous voyez qu'on y est déjà d'une certaine manière. C'est une quatrième manière la plus expressive, la plus forte, bien évidemment, mais qui est... Si on s'est laissé porter par la liturgie, on est déjà dedans. Mais là, on est heureux les invités au repas du Seigneur. On se lève, on marche, on tend les mains, on ouvre la bouche et tout le corps pour recevoir le corps du Christ. Et alors, une fois de plus, saint Augustin a dit, nous recevons le corps du Christ, mais c'est bien sûr lui qui nous reçoit en lui. Nous tendons la main, mais c'est lui qui nous reçoit le plus profondément. On aimerait aussi que, justement, ce que l'on fait là, on le fasse dans la même attitude. Bien sûr, si on se lève pour communier, si on communie debout, mais que durant tout le temps de la communion, l'assemblée reste debout. C'est une même action, c'est une communion.
Sinon, les premiers vont communier et puis on s'assied comme si c'était fini. Mais non, les autres sont encore là. L'acte n'est pas fini. C'est comme si moi j'étais servi. Mais non, ce n'est pas moi seul. On est une assemblée d'église. On est fait église par la même. Et donc, une fois de plus, la manière même dont les actes se font exprime beaucoup de la compréhension qu'on en a. Et la compréhension qu'elle développe dans la tête des enfants, par exemple. On communie au corps du Christ et on est fait église. Et donc, on suppose qu'effectivement, on se tienne dans la même attitude pour manifester la recréation de nous-mêmes par cette action. Il y aura l'oraison, bien sûr, et puis le « aller ». Parce que effectivement, l'action du Christ, on l'a célébrée, et que les chrétiens ne sont pas faits pour tourner en rond autour de cela, mais pour aller l'annoncer, le vivre, l'annoncer par leur vie, leurs actes et éventuellement leurs paroles. Je vais conclure. Il faut essayer de renoncer aux ersatz. Aux produits de substitution. Les actes du Christ célébrés par l'Église sont suffisamment forts, puissants. Si on les entend, si on les écoute, si on les reçoit, si on les célèbre. Il y a bien sûr diverses manières de le faire. Je pense par exemple au chant. Il y a la News Day de Bach, mais il y en a 36 000 autres. Et donc il y a 36 000 possibilités de bien faire. Mais la liturgie a son sens en elle-même. Il ne faut pas la recouvrir d'autres choses pour faire passer la pilule. Tant qu'on est là, on manifeste l'incompréhension des actes profonds du Christ qui nous sont adressés. Et la participation, donc, ce ne sont pas des trucs, ce ne sont pas des artifices, c'est devenir acteur des actes du Christ lui-même. Je terminerai par un bel adage que je vous dirai d'abord en latin, puisque ça fait toujours bien parler latin. Mens concordet voci. Que votre mens, votre mentalité, votre esprit concorde, concordet, subjonctif, qu'il concorde un souhait à votre voix. C'est saint Benoît qui a dit ça après avoir demandé à ses moines de dire les psaumes. Et on dit les psaumes, mais en vue que votre voix, qui est première, entraîne votre esprit. En disant les psaumes, oui, votre activité vocale est mise en activité, mais en vue de mettre en activité votre activité mentale, que votre mens concorde à votre voix. C'est un adage donc, de saint Benoît pour la récitation des psaumes, mais qui, je crois, est très valable pour l'ensemble de la liturgie, que votre mentalité, que votre que votre intelligence, que tout votre être concorde, soit pris, soit transformé par les actes qui vous sont proposés par la liturgie. C'est une simplicité enfantine. Élevons notre cœur, mais on se lève. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi est-ce difficile? Parce qu'on a recouvert ça quand c'était en latin, c'était la messe du prêtre, et pendant ce temps-là, on faisait autre chose. Et on n'est pas encore tout à fait sorti de cela. C'est la seule chose que j'ai voulu dire, c'est que la liturgie est intéressante, qu'elle est même intelligente, que ce sont les actions du Christ, et que devenir chrétien, c'est simplement se laisser transformer, se laisser prendre, se laisser modeler, se laisser évangéliser par ce que la liturgie nous propose. Je terminerai par une loi de la liturgie exprimée par Louis-Marie Chauvet, qui est sans doute un des meilleurs théologiens français des sacrements et de la liturgie, qui dit « La loi fondamentale, ce n'est pas dire ce que l'on fait, mais c'est faire ce que l'on dit. » Amen.